bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bande originale, soyez les bienvenus. On est ravis de vous accueillir avec Leïla Kaddour Boudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Leïla.
Albert Algou.
Bonjour.
Guillermo.
Oui, absolument. Bonjour.
Moël. Ouais. Tout à l'heure, Tanguy Passuro. Et notre invité, monsieur Marc Dugas.
Bravo.
Ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Marc, ravi de vous accueillir. Et pourtant.
Et pourtant.
Non, je vous en veux parce que quand on est accroché comme ça à un livre, quand on est suspendu et quand on se prend comme un seau d'eau froide, une phrase qui vient vous réveiller de tout ce que vous avez lu, on peut en vouloir à l'auteur, mais c'est quand même avec beaucoup d'admiration qu'on vous accueille parce que Transparence, c'est un roman d'anticipation. Ou pas, d'ailleurs, je sais même pas. Ce qui est fort, c'est qu'il y a tellement de choses vraisemblables que l'on se laisse piéger par l'invraisemblable.
Oui, c'est le risque. C'est le risque, mais j'espère que ça reste invraisemblable. Sinon, on est vraiment mal barré.
En tout cas, c'est inquiétant.
En tout cas, c'est inquiétant.
C'est aussi ce qui participe au fait qu'on n'a pas envie de lâcher le livre. C'est une sorte de désir un petit peu étrange qui est de continuer à se faire peur en se disant que tout est plausible et en même temps tout relève de la fiction sans savoir où est la frontière. Sans savoir ce que vous inventez, ce que vous déduisez d'une pratique contemporaine qui pourrait devenir un peu dangereuse. C'est ça qui est compliqué dans le livre et qui est passionnant.
Mais
Transparence, c'est fascinant. Ouais.
Juste, on va en parler évidemment plus longuement de Transparence. Quel est le point de départ pour vous? Parce qu'il y a plusieurs effets. Il y a l'écologie, il y a l'immortalité, il y a l'informatique, il y a le secret des données. Quel a été votre point de départ?
Le point de départ, c'est deux perspectives. La première perspective, c'est le risque que l'humanité s'éteigne avec la crise climatique, qui, je l'espère, n'est pas un risque à 100%.
Si, si.
Mais apparemment, on écoute les scientifiques, c'est quand même très, très mal barré.
Pour reprendre l'expression, c'était Hubert Reeves qui nous avait dit à ce micro, c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'humanité. La planète, elle...
Ah non, la planète sera toujours là.
Voilà.
Elle sera toujours là et elle se passera très bien de nous.
Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a dans votre livre.
Et quand on sera plus là, il y aura plus jamais, il y aura plus personne pour témoigner sur nous et sur le fait qu'on ait été là. C'est encore pire, c'est-à-dire qu'on va être carrément effacé de la mémoire universelle. Donc c'est extrêmement grave. Et donc cette perspective un peu funeste écologique, elle est un terme qu'on dit être les années 2050, 2060.
2060, c'est là où se passe votre roman.
C'est là que se passe mon roman. 2068, évidemment, clin d'œil, anniversaire d'une époque qui m'est chère. Et puis, de l'autre côté, on a cette perspective qui est censée nous offrir la révolution numérique, où vous avez un courant extrêmement financé aujourd'hui qui mobilise des fonds très très importants, qui est ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire c'est l'idée que à un moment ou un autre on arrivera à être immortel d'une façon ou d'une autre.
Idée portée par Google qui ne cache pas son envie de
qui ne cache pas et en particulier Kurzweil qui est le patron de cette section de Google qui s'occupe du transhumanisme, c'est quand même des grands cinglés. Et ils sont persuadés d'abord qu'on va réussir à augmenter l'homme, qu'on va le faire vieillir jusqu'à, puis qu'un jour on arrivera jusqu'à l'éternité. Alors c'est ce qui est très marrant, c'est que il y a à la fois la perspective de disparaître complètement et la perspective d'être immortel. Et c'est ça qui a déclenché le roman.
Et Kurzweil est d'ailleurs présent dans votre roman.
On va parler un petit peu de lui.
On va parler, évidemment. Mais d'abord, question concernant Marc Dugas. Il a beau venir. Alors c'était quand la dernière fois parce qu'on avait du mal à retrouver la date.
Alors c'est 2015. Pour quinquennat. Vous êtes venu pour quinquennat et entre-temps pour l'échange des princesses.
C'est ça. Voilà. Mais toujours parce que l'on aime vos romans et on n'a toujours pas reçu de cadeaux en échange. Pourquoi Marc
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Non, rien, non, mais c'est pas...
L'éternité.
À vous, oui.
L'éternité.
Le numéro portable de Kurzweil. Pourquoi Marc Dugas ne vit-il plus à Paris?
Supporte pas la pollution, le bruit...
Tout simplement. La pollution.
Et là... En plus, ça tombe bien parce que je déménage ce week-end.
Vous revenez à Paris?
Samedi. Non, je vais encore plus loin.
Je vais encore plus loin.
J'ai été à Bordeaux, mais Bordeaux, c'est pas aussi pollué que Paris, mais c'est quand même assez sérieux. Donc là, je pars en Bretagne, sur les côtes. carrément.
Finistère.
Non.
Ouais. Non, non, mais c'est pas pour avoir l'adresse.
Il est vilain.
Il est vilain. Non, mais parce que Finistère, comme étymologiquement, c'est là où la terre se finit. Ouais. Je me disais que vous pouvez pas aller plus loin que le Finistère et que c'est.
Ouais, mais il faut quand même venir à Paris, donc j'ai cherché un endroit en Bretagne qui est quand même accessible.
Accessible. Près de Saint-Malo. J'aime bien la phrase accessible. Pour vous, la pollution, elle s'est. Comment dirais-je, c'est signalé à vous comment par un sentiment de trouble de santé. Je sais qu'il y a des amis qui ont qui quittent Paris parce que leur enfant tous est asthmatique.
C'est pour ça que j'ai quitté Paris parce que mon fils était asthmatique et donc il a eu une crise terrible qui m'a amené à l'amener aux enfants malades. Et je me souviens de ce jour-là et en rentrant en taxi avec ma femme en le ramenant dans la nuit. J'ai dit, on se barre. Voilà. Ouais, et donc, le lendemain, on avait, bon, comme j'ai la chance de pouvoir habiter où je veux. Donc, on est parti. On va choisir déjà une ville un peu plus aérée. Mm-hmm. Et puis là, maintenant, ça suffit pas. On part carrément dans un village. Mais, c'est grave parce que moi, j'étais pour une série que je fais pour Canal. J'étais à Séoul. Et, à Séoul, quand vous avez les vents dominants qui viennent de Chine, vous ne pouvez plus respirer. Et j'ai vu des gens qui me disaient, vous savez, pourtant on est un pays riche, on est plutôt heureux, mais on va partir parce qu'on peut plus respirer. Des jeunes qui ont décidé de migrer parce que la pollution est telle quand les vents viennent de Chine. Et ça, c'est la pollution de toutes les usines qui font nos godasses, nos t-shirts. Mmh.
Notre surconsommation.
Et ce qui est intéressant, il y avait une information la semaine dernière, c'est que des Chinois ont commencé à acheter des bouteilles d'oxygène Air du Canada. Air de Vancouver.
Ouais, c'est ça.
Et donc, il se balade avec une bouteille d'oxygène et un masque.
Il respire un petit peu d'ailleurs.
Donc, il y a un vrai problème, quoi.
Clairement.
Et il y a pas que le problème de la pollution atmosphérique, malheureusement.
Il y a un problème d'hygiène dans tous les sens du terme, mais aussi bien alimentaire que planétaire.
Oui, il y a un problème d'hygiène alimentaire, il y a un problème de rapport à la nature, il y a un problème de.
Respect.
Il y a un problème de névrose obsessionnelle qui est de toujours consommer plus, de produire plus, et je pense qu'on est au bout du système. Donc il va falloir
clairement,
que ça change.
Clairement. Il nous a dit, on parle de la mer justement avec Marc Duguin, il nous a dit dans cette émission qu'il se sentait à l'aise avec la mer, enfin qu'il ne se sentait pas, pardon, à l'aise avec la mer, sauf dans une condition bien précise.
Quand c'est à la télé ?
Non. Non.
En vacances ? Quand il est sur la plage ?
Non, justement. Quand il la regarde,
quand il est
de
sur
loin,
l'eau.
Quand elle est loin de lui, quand elle est à distance.
Quand il est sous l'eau.
Exactement.
Sous l'eau. Dans un sous-marin.
Ouais.
Vous n'êtes à l'aise que dans un sous-marin.
Normal, ouais. Classique.
En même temps, ça fait pareil.
Comme nous tous.
En même temps, ça fait un peu le gars. Ça fait un peu le gars qui est en sous-marin tous les week-ends, ce qui est vraiment le cas. J'y ai été une fois.
En sous-marin. Après Bordeaux, l'Ille-et-Vilaine, le sous-marin.
C'est vrai. Le même mec qui te parle de pollution, il te dit moi, je suis à l'aise qu'avec un sous-marin nucléaire. Sinon, c'est pas possible.
Ça pollue pas, un sous-marin nucléaire. À part les déchets, après, évidemment, c'est un peu limite.
Marc, attention.
Non. Mais
tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Vous savez.
Mais oui, non, mais c'est une expérience.
J'avais déjà été dans un sous-marin.
Oui, j'ai été dans un sous-marin nucléaire, j'avais été invité. C'est au moment où j'écrivais une exécution ordinaire sur l'histoire du Kursk. Et donc j'avais été invité par l'armée. Et c'est vrai que toutes mes appréhensions, mes phobies, parce qu'en fait j'ai failli me noyer quand j'étais enfant. Et donc j'ai une phobie de la mer. Et cette phobie a totalement disparu dès le moment où on plongeait. Voilà.
Parfait.
Donc en fait, j'ai eu
pas besoin d'hypnose ou d'acupuncture.
J'ai eu quelques jours sans phobie, puis depuis la phobie est là, et maintenant je vais aller habiter devant ma phobie.
Avec une maison qui va ressembler un tout petit peu à votre héroïne ou pas, c'est-à-dire une construction en bord de falaise.
Oui. Mais pas,
pas au point de tomber.
Au point de tomber, on ne sait pas. ça reste une hypothèse. Ouais. Mais pas dans la mer. C'est qu'elle tomberait dans le village qui est en dessous, qui ensuite lui est dans la mer.
Ils vont être contents.
Quelle était l'activité principale de Marc Duguin lorsqu'il était enfant pendant ses vacances ? Il faisait quoi essentiellement ?
Des mots croisés.
Non. Oui, et un jeune dynamique. Non.
Des châteaux de sable.
Vers quel âge ?
Enfant,
il rêvassait, il inventait des choses.
Des cabanes.
Il dessinait.
J'ai pas l'âge. Avant l'adolescence.
Il tricotait.
Non.
Il faisait du jardin.
Observation de la nature.
Non.
Des oiseaux.
Non.
Il tuait des chats.
Non.
C'est une activité.
Il tuait des chats.
Non, bah, c'est une activité.
C'est sportif.
Oui.
C'est
la course.
Du foot.
Exactement.
Du...
Tout le temps en train de courir.
Tout le temps.
Après quoi, on sait pas, mais la bougeotte.
Ben non, je courais parce que mon père était paralysé en fait. C'était la raison. J'avais mon père devant moi qui marchait avec énormément de difficultés quand il arrivait à marcher. Et donc ça a créé un mécanisme psychologique qui est assez naturel chez un enfant, qui est de se dire ben moi je vais pas marcher, je vais courir et puis après ça devient une addiction.
C'est votre papa qui vous a dit c'est une névrose?
Non, c'est l'ami de mon père qui était médecin qui m'a dit t'es en train de développer un truc qui ressemble à l'anorexie ou à l'anorexie boulimie. Enfin, c'est les mêmes symptômes.
Oui, une réaction à un mal, voilà. par un autre mal, entre guillemets.
Une sorte de névrose. Et là, maintenant, j'ai tellement mal partout, je cours de moins en moins, mais je continue à faire du sport. Non, mais quand
on dit courir, c'est pas courir dans le jardin ou courir après un ballon. Il y avait plusieurs kilomètres par jour.
Oui, c'était, je faisais jusqu'à 20 km par jour, oui.
Donc ça ressemble
140 km par semaine. Ouais. Donc là, ça ressemble vraiment à un problème.
Quel phénomène paranormal se passe quand Marc Duguin écrit?
Il entend des voix.
La lumière s'éteint.
Il est en connexion avec des êtres.
En lévitation.
Exactement. C'est ce que vous avez dit. Alors, on va mettre entre guillemets lévitation. Vous dites que vous sentez en lévitation.
Quand on écrit, il y a un phénomène qui est un peu hypnotique en fait. C'est-à-dire qu'il faut arriver. Moi, très souvent, c'est les idées me viennent pour un roman ou pour un film, pour un scénario. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de la création, c'est le moment où je cherche le sommeil. Et comme chez moi, c'est assez long. Ça prend du temps. Il y a un moment
de flottement
et dans ce moment-là, il y a des idées qui arrivent. Évidemment, ça me réveille. Du coup, c'est foutu. Ouais, il faut repartir.
Il faut noter.
Et non, je note pas, mais le lendemain matin, j'y vais directement. Et c'est vrai que c'est assez créatif.
Il vous est déjà arrivé d'avoir ce moment de flottement, d'avoir une idée et de l'oublier et de vous dire mais c'était quoi ce truc génial que j'avais?
Mais parce qu'on pense toujours qu'on est génial le soir et le lendemain matin, on se rend compte qu'on n'est pas génial du tout.
C'est vrai.
Et ça arrive souvent.
Ça arrive tous les jours.
Ça, je peux dire, ça arrive souvent. L'histoire de ma vie.
Si vous saviez comme je vous comprends.
À force de mener des enquêtes sensibles pour ses romans, Marc Duguin s'est rendu compte d'une chose.
Il était suivi par les services des renseignements français et autres.
Vous êtes sur écoute.
Ouais.
Enfin, et surtout maintenant, parce que vous êtes à la radio.
Ouais. Oui, là, je suis sur grande écoute.
Ouais. Mais vous êtes rendu compte que votre téléphone était suivi par les services de renseignement.
Oui, enfin, mes téléphones, mon mail, tout ça, c'est quand j'étais sur... Après, les services de renseignement, je ne parle pas des services de renseignement français, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut savoir que... Je dirais pas tout le monde peut écouter tout le monde, mais des officines de renseignement privées, françaises, étrangères, peuvent vous écouter.
Parce que les smartphones sont craquables.
Parce que les smartphones sont extrêmement craquables. Et donc, quand je faisais l'enquête sur MH370, sur la disparition de cet avion...
Indonésien ?
Malaisien.
Malaisien, c'est à côté, je confonds.
C'est pas loin. effectivement, je me suis aperçu que mes mails... Que tout mon système de communication était écouté. Voilà.
Que fait Marc Duguin depuis plus de 40 ans ?
Et court.
Non, il a dit qu'il ralentissait là. Mais c'est une activité physique, oui.
Il ne fête plus son anniversaire.
Non. Du yoga.
Il fait des pompes.
Non.
Il tue des chats.
Non.
Il ne fait plus des économies.
40 ans. Et puis une fois que vous le saurez, vous serez beaucoup plus gentil avec lui.
Du karaté.
Ouais. Exactement. 40 ans de karaté.
Ouais.
À part bien sonner phonétiquement, c'est une activité qui vous permet quoi, une forme d'exutoire, ça vous défoule?
Je trouve que c'est très complet. Enfin, en fait, moi, je fais pas du tout ça dans un esprit de combat
ou de self-défense peut-être. Non plus.
Oui, bien sûr, ça aide si ça doit arriver.
Si vous attaque.
Mais bon, ça n'arrive pas. Mais
parce qu'ils savent maintenant.
Ouais. Oui, mais tout le monde sait, c'est écrit d'ailleurs. J'ai un t-shirt.
Non, c'est le problème, c'est que vous baladez en kimono, mais c'est facile de vous repérer.
Mais non, je trouve que c'est une activité très 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 apaisante. Et moi, j'ai besoin d'être très détendu pour écrire. Si je suis très tendu pour une raison ou pour une autre, j'arrive pas à écrire une ligne.
Vous avez besoin de
silence.
Si
je suis détendu, je suis très bien.
Est-ce que le silence vous aide ou la musique peut vous accompagner?
Alors oui, le silence, oui, au point que je recommande à ceux qui écrivent. J'ai acheté pour 5 euros un casque de chantier, vous savez, pour les gens qui chant des marteaux-piqueurs. Un gros casque jaune, vous mettez ça, vous n'entendez plus rien, personne. C'est extraordinaire. Bon, après, vous avez un peu l'impression d'être dans un bocal quand même.
Mais c'est pas mal. Je sais plus quelle marque, un casque réducteur de voix.
C'est génial.
C'est vachement bien.
Oui, j'en ai un aussi.
Ça coûte vachement plus cher.
J'en ai un aussi, mais c'est beaucoup plus cher. Et surtout, c'est moins parfait. Ça aspire le bruit, en fait, mais on entend quand même beaucoup plus qu'avec un casque de chanterie.
Ce que je dis pas là, c'est que si quelqu'un vous appelle, vous l'entendez, mais il n'y a pas de bruit de fond, entre guillemets. Ça ne fait qu'assourdir ce qui se passe autour de vous.
Quand votre femme est au marteau-piqueur, vous l'entendez beaucoup moins.
Oui, quand elle est... oui, exactement.
Oui,
c'est ça.
Vous êtes passé à Saint-Marc de la Salvagne.
On n'est pas passé loin.
C'est bien la retenue.
Ce petit faux départ, là.
C'est bien la retenue, parfois.
Parlons de Transparence. Donc, Transparence étant le nom de la société de cette demoiselle formidablement prénommée Cassandre. Et là, évidemment, on retrouve toute une histoire
mythologique.
Mais Cassandre avait raison dans sa manière d'alerter les Troyens ou les Romains, je ne sais plus.
Elle était troyenne, Cassandre.
Ouais. Voilà, donc elle avait quand même raison. On avait beau dire, et l'expression d'ailleurs, arrête de faire ta Cassandre, c'est-à-dire de ne prévoir que des mauvaises choses.
On l'entend rarement quand même.
Si,
tout le temps.
On est un peu en 2019. Mais en tout cas, c'est une expression qui existe.
Je ne te l'ai jamais dit, Nagui.
C'est une expression qui existe.
Arrête de faire ta
Cassandre. Mais elle avait raison. Voilà, Cassandre avait raison. Or là, votre héroïne, et c'est pas naïf, donc s'appelle Cassandre. Elle a une société qui s'appelait Transparence. Je dis qu'il s'appelait Transparence parce que cette société a eu la bonne idée de se servir de toutes les informations que l'on peut récolter par les objets connectés, évidemment les téléphones, les ordinateurs. Maintenant, il y a des montres, il y a des bracelets qui vous tiennent au courant de votre rythme cardiaque, de vos pulsations, du nombre de pas que vous faites, du nombre de marches que vous montez, de l'endroit où vous êtes baladé. Bref, toutes ces informations réunies dans cette société apporte quelque chose de nouveau, qui peut être une idée d'ailleurs pour le plein emploi ou en tout cas pour le revenu
universel,
c'est de dire, si vous êtes connecté, si vous nous donnez vos informations, le simple fait de nous permettre de vivre en totale transparence, on va vous payer, on va vous rémunérer, parce que ces informations, nous, on va les monnayer à d'autres sociétés. C'était ça, Transparence.
Oui, c'est ça l'idée. L'idée de transparence, au départ, c'est une idée... dans le rapprochement des individus qui doivent former un couple. Aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, il y a un phénomène amoureux qui se déclenche, mais on ne connaît pas la personne en face.
Là, elle a créé le logiciel qui permet de rencontrer la personne idéale.
Et là elle crée un algorithme qui va permettre de tout savoir sur quelqu'un, même ce qu'il ne veut pas dire. C'est là où c'est vraiment de la transparence. Et là, c'est là que ça devient inquiétant.
Mais l'idée de rémunérer les personnes pour donner les informations concernant leur vie. Alors oui, qu'ils s'en servent pour savoir si, d'un point de vue cardiaque, d'un point de vue pondéral, d'un point de vue alimentaire, ils progressent ou ils régressent. Très bien, ce sont les objets connectés. Mais de dire, on va vous payer parce que ces informations vont être utiles. Elles sont déjà utiles, elles sont déjà exploitées. On n'est pas payé pour ça.
Ça sera une forme de redistribution peut-être à un moment ou un autre. C'est-à-dire qu'en fait, les sociétés, les géants numériques font tellement d'argent sur nos données. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que le chiffre d'affaires de Google Alphabet, 75%, c'est de la pub. Et c'est de la pub à partir de nos données pour cibler ce qu'on veut consommer.
La clientèle, oui.
Et donc,
cibler la clientèle ou cibler les lecteurs, ce qui a été le cas avec Trump aux États-Unis.
Exactement. C'est toujours savoir plus sur les gens pour pouvoir leur imposer quelque chose.
Voir les manipuler, oui.
Et évidemment les manipuler. C'est tout le risque qu'on a très bien vu avec le Brexit. C'est-à-dire que le Brexit, la manipulation qui a eu lieu sur Facebook en disant aux Anglais, l'argent que vous mettez dans l'Europe ne va pas dans les hôpitaux, arrêtez de mettre de l'argent dans l'Europe et ça ira dans les hôpitaux, ce qui est une idiotie complète. Ça a convaincu un certain nombre de gens de voter pour le Brexit. Et après, ils s'en sont mordus les doigts parce qu'en fait, ils n'avaient pas compris. Donc, c'est un phénomène de manipulation, d'intoxication. Mais sur le revenu minimum, les gens du net font tellement d'argent. Je pense qu'à un moment donné, les gens vont réagir et il y aura une contrepartie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas de contrepartie fiscale. Ils ne payent pas d'impôts. Ils ne payent quasiment pas d'impôts. Ils sont dans des sociétés...
Là aussi, vous le dites dans votre roman, c'est-à-dire qu'ils créent leur propre État, finalement. Et ils ont déterminé leur territoire, ils pourraient même déterminer leur monnaie, leur manière de vivre, avoir leur drapeau, l'hymne, voilà, c'est ça, leur équipe de foot au Mondial et leur équipe aux Jeux Olympiques.
Facebook travaille sur la création de sa propre monnaie. Vous pouvez pas être plus juste. C'est-à-dire que l'idée, c'est... Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que, par exemple, un État comme le Danemark a dépêché un ambassadeur, avec le titre d'ambassadeur, exactement comme ambassadeur du Danemark en France, pour Facebook. Auprès de Google.
Auprès de Google.
Donc ça dit beaucoup quand même sur la façon dont tout ça évolue.
Mais même récemment, Mark Zuckerberg a été reçu à l'Élysée. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus complètement transparent.
On n'est pas dans la fiction, oui.
Voilà,
absolument.
Ça veut bien dire que tout d'un coup, c'est un interlocuteur important qui a un rôle. Enfin, tout le monde n'est pas reçu.
Mais c'est très important. Vous savez pourquoi ? C'est parce que ces gens-là, s'ils le veulent, peuvent tuer la démocratie. Mmh. Comment ils vont le faire, s'ils devaient le faire ? C'est simplement en vous disant, mais tous ces corps intermédiaires, ça va nous rappeler quelques événements récents, mais tous ces corps intermédiaires, on n'en a pas besoin, puisque vous avez un terminal, vous avez un téléphone, vous pouvez voter en direct sur une loi tous les jours. Voter, mais vous avez pas besoin d'avoir...
Cliquez
pour ou contre la peine de mort. Je clique, super, un like.
C'est ça.
Bon, on est consulté, on est d'accord que ça donne...
On est consulté, mais en même temps, on n'a pas du tout les instruments de prise de décision. C'est ça, le problème du numérique.
Et avant de cliquer, on aura reçu, comme par hasard, 2, 3, 4 informations tendancieuses qui inconsciemment vont nous diriger vers telle ou telle opinion. Parce qu'après se pose le problème de l'information, des fake news et de la manière dont on peut être lucide ou objectif face à toutes ces informations. Les informations qu'ils nous envoient nous influencent. Et les informations qu'on leur donne aussi, ils les exploitent. On parle de Facebook, toutes les photos, tous les textes, tous les documents laissés sur Facebook deviennent la propriété de Facebook.
Absolument.
On n'est plus propriétaire de nos photos de famille laissées sur les réseaux sociaux.
C'est pour ça que j'ai pas Facebook, moi d'ailleurs.
Ce
qui est intéressant, c'est le rapport des politiques avec ces gens-là. C'est qu'en fait, ils les utilisent pour les élections. Macron a utilisé ces gens-là pour les élections. Trump les a utilisés. Et donc, ils sont dans un rapport de, oui, il faudrait pas quand même, nous gêner trop, mais en même temps, donc ils sont très très inquiets.
Donc c'est encore plus délicat de leur demander de payer des impôts quand on s'en est servi.
Oui. C'est sûr. Surtout que là, vraiment, ils n'en payent pas beaucoup par rapport à ce qu'ils gagnent clairement en Europe.
Et là, dans le roman Transparence,
on est qu'à la troisième page là, de ce qu'on vient de faire.
Oui, c'est ça.
C'est un monde
beaucoup plus angoissant que ça, non seulement.
Elle va passer à un autre stade, une société qui s'appelle Endless, sans fin, si on doit traduire...
Sans fin,
c'est ça.
Ouais.
Si on doit traduire l'expression utilisée, le nom utilisé pour cette société, et elle décide de manipuler d'abord les marchés boursiers avec ses 12 compagnons informaticiens, logisticiens et qui l'entourent, sa garde rapprochée. Elle décide donc de faire une opération financière qu'on va expliquer très très simplement en prenant des parts et des actions dans des sociétés, en faisant un effet d'annonce qui fera que le marché va s'écrouler et que elle va pouvoir faire une bascule et gagner énormément d'argent, des milliards en quelques jours. À peine, ces milliards pour quoi faire ? Pour acheter la boîte où elle travaillait avant avec Transparence, c'est-à-dire elle va racheter Google et devenir maître du monde.
Exactement. Exactement. Et tout ça sur une annonce qui est quand même une annonce...
Est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on le dit pas ? Parce que moi je sais pas jusqu'à
quel point
on peut le dire,
c'est-à-dire qu'en fait elle promet l'immortalité. Elle dit avec toutes les... Son raisonnement de base, c'est de dire, avec toutes les données qu'on collecte sur les individus pendant leur vie, pour ceux qui auront voulu être connectés...
Si
vous acceptez la transparence, ce qui n'est pas mon cas, donc moi l'immortalité c'est cuit. Mais avec toutes les informations qu'on va collecter sur vous, toutes les données, on sera capable de vous reconstituer après votre mort. Et on vous reconstituera dans une enveloppe qui ne sera pas cette enveloppe charnelle, pourrissante... vieillissante et pourrissante, mais dans une enveloppe...
C'est vrai qu'il t'a regardé quand tu
disais ça. Je suis pas en forme, mais bon, quand même, Marc.
Mais dans une enveloppe
mais dans une
plus...
enveloppe
plus efficace et simple, parce qu'on n'a pas besoin de manger, ni de boire, ni de dormir.
Voilà, ce qui en plus résout les problèmes écologiques, parce que des moments on mange pas, on dort pas,
il n'y a pas d'éjection,
il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de pollution. Et ça devient une sorte de d'homme idéal.
Mais l'attribution de cette éternité ne se fait pas n'importe comment, c'est pas une question d'argent, c'est en fonction de ce que vous avez fait dans votre vie, de votre respect, c'est-à-dire une sorte de méritocratie environnementale. Quoi.
Exactement. Et en fonction de ça,
vous respectez la planète, vous avez le droit. Vous respectez la planète, vous avez le droit de rester sur la planète. Vous ne la respectez pas, vous serez mort. Au revoir.
Voilà. Donc c'est une sorte de folie, mais c'est un. Voilà, c'est un.
Non, mais à partir.
On va pas dire que c'est une escroquerie, mais c'est un coup assez. Assez malin.
Non, c'est d'autant plus malin qu'elle va en une semaine, presque en une nuit, avoir entre ses mains le pouvoir que les présidents de la République, hommes ou femmes, la contactent en disant mais c'est vous maintenant entre guillemets la patronne quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se parle. C'est elle qui décide de renvoyer d'ailleurs les différents responsables de Facebook, de Google en disant moi j'ai plus besoin de vous maintenant. J'ai tout racheté. Je suis la patronne. Même le pape. Et là il y a un long chapitre très.
Elle rachète l'église. Oui.
Très religieux et ouais, alors drôle. On va dire, vous vous étendez sur cette partie religieuse parce que elle finalement cette Cassandre devient un messie,
nouveau messie,
le nouveau messie,
nouvelle messie.
Et c'est la première femme messie. Non, il faut le dire. De l'histoire.
Qui a un E quand même. Messie, il y a un E à la fin.
Comme il y a un E à la fin déjà dans Messie, donc.
C'est ça.
Ça tombe bien.
C'est un signe.
Ça tombe bien, c'est un signe.
C'est un signe. Transparence, vous ne pourrez pas, comme nous, hein, vous ne pourrez pas commencer à le
formidable,
lire.
C'est formidable.
C'est dingue. C'est extrêmement bien écrit. Il y a une intrigue, il y a une part humaine aussi, parce qu'il y a une histoire d'amour, une histoire de famille, puisqu'elle est maman, elle est mariée aussi. Comment va-t-elle gérer son couple? Et elle n'a même pas le pouvoir de décider de l'immortalité de sa propre famille. C'est l'algorithme qui doit le décider. Et puis là, l'effet de communication, elle commence par un assassinat, par un meurtre, puisqu'elle se fait arrêter par la police pour avoir tué...
Quelqu'un. Une femme, avoir poussé de la falaise une femme.
Voilà, ça s'appelle Transparence, ce roman est chez Gallimard, c'est signé Marc Duguin. J'adore, non mais j'adore.
On peut dire ou pas.
Ouais. Non, on le dit pas.
Non, il faut rien dire là, parce que ça participe vraiment
avec des moments.
Non, mais c'est au début.
Et puis il faut dire qu'il y a des moments très très drôles dans le bouquin quand même. Vous mettez en scène des femmes de présidents qui sont complètement ivrognes, c'est sous Hélène Dandalas. Il y a des vraies réflexions aussi sur le savoir, comment est-ce que deviendra cette génération qui a accès à toute l'information mais qui ne retient rien. La littérature, l'avenir du livre, ça c'est aussi très très drôle, cette mise en abîme. On ne lit plus et en plus, surtout par recommandation, comme on connaît nos goûts, quand on tombe sur un livre, finalement c'est un livre qui va nécessairement nous plaire. Mais le bonheur dans la lecture, c'est aussi de tomber sur des livres qui ne nous plaisent pas, qui nous déplaisent, qui ne nous laissent pas indifférents. Donc il y a des pages très très belles là-dessus.
Non, mais c'est drôle, c'est intelligent, c'est rythmé. Voilà, c'est un livre qu'il faut lire, Père Albert. C'est un succès, forcément.
Mon cher Nanguet, mais c'est déjà un succès. Oui. Succès qui va aller s'amplifiant après cette émission excellente. Car déployant une fois de plus, avec brio, votre aptitude à la synthèse, vous avez souligné les qualités tant romanesques que philosophiques de cet ouvrage remarquable qui, moi aussi, m'a tenu en haleine tout en stimulant, titillant, surexcitant ma réflexion. Alors, je ne citerai que les analyses aussi coruscantes que démystifiantes de Marc Duguin. Coco, Marc. je ne cite que le populisme, Donald Trump qui a la cervelle remplie de coton, la disparition progressive de la vie privée, le survivre ensemble, la servitude volontaire absolue et sans violence, ça c'est fort, la réification d'absolument tous les rapports humains, la disparition des oiseaux et l'avenir du livre, comme l'a dit Leïla à l'instant. Alors certes, c'est de l'anticipation, mais elle nous revient dans nos tranches de 2019 à la vitesse d'un boomerang cosmique et ça fait peur. Et ça fait mal. D'autant plus qu'au cœur du roman palpite la question du transhumanisme, de l'immortalité. Et là, Marc, je dis stop. stop, stop in the name of God. Si tu faisais pas du karaté, je t'exorciserais tout de suite. Un exorcisme flash. Oui, je trame, j'ai la trouille. Car Cassandre, ton héroïne, si elle imagine un transhumanisme respectueux de l'âme, il faut le dire quand même, si elle exalte un moment la figure de Jésus, page 98, malgré tout, en se prenant pour la dernière prophète, l'ultime messie, vous l'avez dit, Nagui, et ces 12 apôtres qui décident de l'immortalité de l'âme placée dans un corps artificiel, eh bien, elles piquent le boulot du fondateur de ma boîte. Concurrence déloyale. Et je comprends que François III, le pape du futur évoqué tout à l'heure, lui ait fait la gueule à Cassandre. Je m'emporte, mais je dois reconnaître qu'exception faite pour ce petit désaccord, je trouve ce livre génial. Notamment dans cette description, page 80, inspirée d'un homme que vous semblez connaître encore mieux que les membres de cette bande originale. Je vous cite. Il ne rayonnait que quand 3 écrans étaient allumés autour de lui. Sa tablette lui servait à se passer de fiction dont la construction était si prévisible qu'il pouvait regarder une série tout en travaillant sans oublier de lire ses messages sur son téléphone. Surtout pendant les émissions. Conditionné à l'extrême, il avait des accès de libre pensée imprévisibles et touchants. Il était temps de rendre hommage à Nangui. Bonne émission.
Merci Elbaz.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Est-ce que la force finalement de votre roman, mais c'est votre malice au sens positif du terme, pas au sens du mal que le père Albert pourrait montrer du doigt, c'est de ne pas justement construire l'invraisemblable sur le vraisemblable?
Parce que quand moi je suis pas, à part Philippe Cadic, que j'adore et que je vénère, je suis pas un immense fan de science-fiction. Et pour aller dans l'anticipation, parce que là c'est de l'anticipation, ça n'était intéressant que si ça montrait ce qui est la société aujourd'hui en fait. Et à partir de la société d'aujourd'hui, jusqu'où elle peut dériver. Après, évidemment, on est dans une fable.
Oui, mais c'est une femme qui a une morale. Est-ce que cette morale, c'est pas justement une forme de cri en disant faites gaffe parce que si vous ne mettez pas des garde-fous, vous risquez de tomber et de rendre ce roman non plus un roman fiction. De fiction mais de réalité.
Oui, bah c'est toujours le risque quand l'anticipation colle à une forme de réalité, en particulier pour ce qui concerne l'écologie. Là, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur le fait que la disparition de notre espèce est en question. Enfin, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, voilà, pour moi, c'est les deux grands thèmes. Et c'est vrai que du moment où on est écrivain, je trouve que c'est bon. La littérature, c'est un domaine très étendu. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, intimistes. Mais pour moi, c'est toujours ce qui me motive, ce qui me décide à démarrer un bouquin. C'est quand il y a quelque chose qui me frappe, mais en pleine tête. Et aujourd'hui, à la fois le problème écologique et à la fois la révolution numérique et la conjonction des deux, je trouve que c'est détonnant et que ça mérite d'y consacrer au moins un livre.
Avec Inky Bilal, on a parlé de vous, donc je me tenais à parler d'Inky Bilal avec vous aussi, puisque vous avez fait apparemment une émission ensemble et chacun avait lu ce que l'autre Exactement. Avait fait, ou lui partait du principe que justement, et c'est l'un des dangers d'ailleurs évoqués dans votre roman aussi, c'est que toute la mémoire numérique risque de disparaître. C'est ce qui se passe dans Bug d'Enki Bilal, mais c'est évoqué aussi en disant, mais où sont les ordinateurs? D'abord, est-ce que c'est vrai que les ordinateurs où tout est stocké vont de plus en plus vers la calotte polaire pour se rafraîchir?
Ben oui, parce qu'en fait, il y a un problème de refroidissement. C'est que tous les énormes ordinateurs
consomment et chauffent.
Qui nous permettent d'aller sur Internet, tout ça, ils consomment et ils chauffent énormément. Et évidemment, si vous voulez, le fonctionnement d'Internet, c'est à peu près la consommation d'électricité d'une ville de 40 à 50 000 habitants.
Et de rappeler que lorsqu'on se sert d'Internet, on pollue, parce qu'on a toujours l'impression que le simple fait de ne pas imprimer suffirait à ne pas polluer en disant, bon, ben voilà, on a protégé nos arbres, on n'a pas imprimé, mais le simple fait de consulter ses mails ou d'aller sur les réseaux, pollue.
Et surtout de garder ses mails.
Conserver, oui. Ouais.
Conserver ses mails. Parce que moi, je fais un peu trop parce que j'oublie tout le temps de les effacer. Mais c'est vrai qu'il y a. Enfin, c'est pas neutre, la révolution numérique.
Le stockage n'est pas neutre.
C'est pas neutre sur le plan écologique. Loin de là.
Transparence, c'est signé Marc Duguin. Ce roman est chez Gallimard. Et voici maintenant. Ça y est, t'es propre. On peut y aller. Il se nettoie avant.
Comme un chien.
Un petit animal.
C'est Guillaume.
Ça, oui. Ah. 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 Ah.
Ça va les amigos?
Ouais.
Non.
Ah,
je suis allé en Angleterre.
Attends, il faudrait que tu n'as pas de casque. Le problème, c'est que là, tu as parlé sur le jingle et c'est le seul moment où mon nom est prononcé dans cette émission.
Ah, pardon.
Voici Guillermo Guise.
Ah, voilà, merci.
Ah bah non.
Nagui, je l'ai dit.
Ça va les amigos?
Ouais.
Oui, alors je suis allé en Angleterre ce week-end.
Ah bon?
Oui, figurez-vous, régler 2-3 trucs sur le Brexit. Des broutilles, maïpato, je l'ai donc demandé. Qu'est-ce que vous voulez? On m'appelle, on me propose telle ou telle somme de sous. Moi je suis qui pour dire à Theresa May? Non, Theresa May, non. J'ai pas le temps de t'arranger ton Brexit à la con, je préfère regarder les rediffusions de Froufrou sur TV Brex. Non, il y a un moment, si t'es pas dans la générosité, regardez Nagui, faudrait qu'il aille épanouir cet homme-là. Ah non, voilà, il est pas dans la générosité. À Inter, ça fait 5 ans qu'il met ses cafés en note de frais. Voilà, forcément. Après,
mais quoi?
Regarde. Enfin bref, soi-disant, en fait, ce qui m'a frappé en Angleterre, si vous voulez, c'est l'affabilité des gens, en fait. Oui. En particulier des commerçants. Les commerçants, ils sont adorables. Ah bah, moi, j'étais pas prêt du tout. J'étais pas prêt. Je suis sorti d'un magasin, la dame m'a juste dit « Have a lovely day ». Je me suis retourné, je dis « Je t'aime. » Vraiment, ça a pris des proportions. Ça a pris des proportions, ce truc. Là, on attend des jumeaux, Tom et Jerry. Vraiment, c'est ma dernière émission sur France Inter. Je pars vers Brighton. Je suis engagé sur England Inter. C'est dans une émission qui s'appelle The Original Band.
Oh ouais.
C'est sensiblement le même concept qu'ici, sauf que le Daniel Morin local a accès à l'eau et au savon. Et là-bas, on se donne les moyens. Ils sont dans la générosité, Nagui. C'est comme ça. Mais c'était déstabilisant, cette gentillesse des commerçants anglais. Ni trop, ni trop peu. Parce que les commerçants américains, par exemple, c'est trop. C'est trop. Ouais. T'arrives dans le magasin, ils te demandent comment s'est passée ta journée, ils te mesurent, ils séquencent ton génome, les plus généreux sucent ton pouce. Enfin, c'est un vrai truc. Alors qu'en France, moins. Moins. En France, t'arrives dans le magasin et de manière assez immédiate, t'as l'impression d'être un cambrioleur. Quoi. Vraiment, tu vois. Si tu rentres pas chez ta mère, on va te lâcher Ricky, le Rottweiler nazi, hein, qui m'a choué une main d'enfant là dans un coin, tu vois. Non. Ça te passera l'envie d'acheter quelque chose, le fils de croûte. Et voilà, et je vous connais. Vous allez me dire, ah, Ernesto, encore une analyse toute fine. C'est quoi, c'est du Bourdieu, c'est du Boutin? Et oui, je sais. C'est une caricature grossière. Mais profite tant que je suis ici parce que dans The Original Band je pourrais plus parce que là-bas il y a une espèce d'exigence de qualité, tu vois, qu'il n'y a pas vraiment ici. D'ailleurs ils m'ont parlé de Leïla, ils m'ont dit son profil nous intéresse vraiment à condition qu'elle arrête avec ses questions approximatives, hein, vraiment, des trucs du genre Daniel Auteuil vous étiez formidable dans Cyrano de Bergerac, ça là-bas ça passerait pas franchement, vraiment. Mais pour revenir au commerce, j'entends de plus en plus de formules inspirées de la culture anglo-saxonne du service ici, genre en France et en Belgique d'ailleurs, hein. Genre de plus en plus on me sert et pour un oui pour un non on me dit bonne dégustation, t'es là, merci c'est gentil mais je bois un Fanta, tu vois, donc peut-être qu'il est millésimé, mais sinon honnêtement j'ai pas de grosses attentes sur le produit, franchement. Vraiment, c'est de plus en plus de trucs chelous dans les magasins. L'autre jour j'achète un pantalon à Bruxelles, je vous promets, ce que j'ai de plus cher, j'arrive à la caisse et la vendeuse elle me dit tout s'est bien passé dans le magasin, t'es là non c'est un scandale, j'ai été attaqué par un cardigan, vraiment horrible, il y a 2 chaussettes qui ont voulu intervenir, mais bon voilà. J'ai voyagé partout dans le monde, jamais je me suis fait traiter comme ça par des habiles, comprenez. Ça va trop loin, quoi. Même à Paris, j'avais besoin d'une râpe à fromage. Dans des proportions raisonnables. Hein. J'avais genre besoin d'une râpe à fromage. Genre, moi, il me faut une râpe à fromage, frère, une râpe à fromage. T'as un plan râpe à fromage? Non. T'as tout le monde. Juste, j'aime bien râper mon fromage. Et je vois qu'il y a une râpe à fromage dans la vitrine.
C'est vrai qu'il y a un marché noir de la râpe à fromage.
Oui, oui, râpe à fromage. Et je vois qu'il y a une vitrine d'une vieille quincaillerie, genre vraiment, où ils vendent des potions et tout. Vraiment. Et je paye ma râpe, je sors et quand je sors, la dame elle fait. Et surtout, monsieur, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Je dis putain, d'où ils ont Instagram? J'étais déjà étonné de pouvoir payer en euros, quoi. Franchement, ils ont une caisse enregistreuse, comme à l'époque de Cocorico Cowboy. Vraiment. Et le pire. Et je me suis abonné à cette quincaillerie. Du coup, de temps en temps, entre 2 photos de potes, je vois passer un selfie des pluches patates. Vraiment. Et je commande trop cute. Ça, c'est 2019, mon pote. Allez, bonne émission.
Merci, Guillaume.
Bravo.
France Inter. Midi. La bande originale.
La bande originale, la musique est un peu présente aussi, puisqu'elle écoute de la musique lorsqu'elle roule. C'est quoi? C'est du Led Zepp? Non, c'est Stairway to Heaven? C'est ça?
Ouais, Stairway to Heaven.
Vous avez glissé vos goûts musicaux personnels ou vous cherchez un message? Parce que le Stairway to Heaven, évidemment, avec cette route vers la mort ou venant de la mort.
Il y avait une symbolique.
Ok. Il me dit sur le ton de tu peux pas comprendre.
Alors, non, pas du tout.
Dans la bande originale de votre vie, on va commencer par ce que vous écoutiez ou ce que vous entendiez autour de vous en 62. Un jour, mon prince viendra par Miles Davis. Someday, my prince will come. Je peux faire band original sur England Inter.
It's a band original with Nagui and Marc Dugain.
Et on est en 62, Marc Dugain. Votre famille s'installe à Grenoble.
Eh oui.
Et vous, et ça l'air.
Eh oui. Ça s'entend que de bons souvenirs.
Mais enfin, on respire bien à Grenoble.
Ah, super. Ah.
C'est une des villes les plus polluées.
Non, non, c'est pas.
C'est pas. À l'époque, en 62.
Mais non, c'était pourri.
Albert a raison. C'est l'une des villes les plus. C'est dans une
ville. Ah non, c'est horrible parce que, enfin, à l'époque, c'était horrible.
À l'époque ah, aussi.
C'était horrible parce qu'il y avait toutes les usines à Pontclet, tout ça, ça venait, puis ça reste dans une cuvette.
Ouais, c'est ça.
Donc, Grenoble, c'est bien quand on est dans la montagne.
Mais quand on habite ça. Voilà, montagne, Revelle, tout ça, c'est magnifique.
Ah oui, oui.
Là, on respire très bien.
Mais quand on. Mais oui. Courchevel, Val d'Isère.
Revel, c'est juste à côté.
Ouais.
C'est juste à côté, c'est pas loin et c'est pas du tout chic. C'est
le Vercors, la Chartreuse.
Revel quand t'es à Gap. Ouais.
Bon, en tout cas, revenons à cette enfance, à cette adolescence. Vous parlez de vous comme d'un enfant difficile.
Oui, difficile. Oui.
Rebelle.
Oui.
Ça se manifestait comment?
Ça se remarquait par le fait que je me suis fait virer de toutes les écoles dans lesquelles mes parents m'avaient mis.
Mais pourquoi? Pour insolence?
Y compris
ou parce qu'on ne travaillait pas beaucoup?
Parce que je mettais le cirque. Parce que j'aimais bien mettre le cirque. Et en plus, à cette époque-là, il y avait qu'un truc qui comptait pour moi, c'était la musique. En dehors du fait de courir, faire un peu de karaté. Mais il y avait la musique et la batterie. Et évidemment, et puis je séchais énormément. En fait, je comprenais pas toujours le système de m'enseigner un truc. Il y a peut-être un bon bouquin qui dit la même chose. Mmh. Donc en fait, j'avais le niveau, mais ça m'intéressait pas. J'arrivais pas à me concentrer, en fait, à écouter un prof pendant une heure. Et donc, je me suis fait virer d'à peu près partout. Puis ensuite, je suis devenu vraiment rebelle au sens des manifs contre
politique.
La loi Debré, des manifs contre le CES Payron qui avait brûlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
Bien sûr, vous êtes trop jeunes tous.
Mais,
bah non.
Mais,
j'ai aucun souvenir de ça.
Et donc là, ça a commencé à un peu chauffer. Et ça a été. Puis après, ça s'est calmé.
Voilà. C'est étonnant, pardon, quand vous parlez des professeurs, on pourrait imaginer, vous qui racontez des histoires, que vous auriez pu être attiré soit par le prof de français, évidemment, puisque vous êtes auteur, soit par le prof d'histoire, parce que justement, il en raconte. Aucun des deux n'avait grâce à vos yeux.
Bah, j'étais attiré par une prof de français, puisque je suis marié avec une prof de français. Donc, vous voyez, non,
je parlais à l'époque.
Ça se finit bien.
Espèce
ça
de pervers,
se finit bien. Toutes ces histoires-là se finissent bien. À l'époque, si, il y avait des profs avec qui il y avait une vraie complicité, puis il y en avait d'autres avec qui. J'étais rebelle à l'autorité, et ça n'a jamais.
Ça continue encore aujourd'hui.
Ça continue.
Et dans votre entourage, il y avait aussi Philippe Audouin.
Oui, le père de Fred.
Vargas.
Qui a beaucoup compté à tous les deux et à moi aussi, évidemment, dans notre formation intellectuelle, parce que c'était un ami d'André Breton. C'était
un auteur surréaliste,
C'était un surréaliste. C'est lui qui a écrit sur les surréalistes chez Gallimard et il nous a ouvert un horizon en matière de peinture, de sculpture, de choses comme ça qui a été très important pour moi. Ouais. Il a beaucoup contribué à me calmer, en fait, par la découverte d'autres choses.
Ouais, ouais.
En 1980, vous écoutiez John Lennon. Quelle image avez-vous en écoutant cette chanson? Pourquoi vous l'avez choisie pour 1980?
Mais parce que j'ai l'image de l'assassinat de John Lennon. C'était en 80?
C'était en décembre, ouais, je crois. 80.
80.
80 ou 80, je ne sais plus.
80.
Décembre. Ouais.
80.
16h.
30.
À New York, assassiné par Mark Chapman.
Dans le couloir de son immeuble. Type qui arrive, qui lui demande un autographe, qui sort un flingue, qui lui tire dessus. On a
8 décembre 80, c'est ce que tu me dis, Jean-Baptiste. Ouais. 8 décembre 80.
C'est la fin d'un monde.
Avec les Américains qui ont la malice de faire maintenant dans Central Park un parterre de fleurs qu'ils appellent Strawberry Fields, en disant que c'est de là que vient la chanson.
Ouais.
Ils
refont l'histoire.
Non, mais c'est la fin. Avec la mort de Lennon, c'est la fin d'une époque. Que je crois qu'Albert aime beaucoup aussi d'ailleurs, qui est toute cette période de la contre-culture, elle va vraiment, pour moi, elle s'arrête avec la mort de Lennon, c'est-à-dire qu'après, on rentre dans une époque qui est beaucoup moins intéressante, qui est vraiment l'apologie de l'argent, c'est plus le charme de la contre-culture des années 65 à jusque les années 75, 80, bon voilà, 80 c'est vraiment la fin. Et moi j'aime beaucoup cette période de la contre-culture, c'est pour ça que j'ai situé le roman en 2068, parce que c'est vraiment 100 ans après votre période miraculeuse, qui est la première période où il y a eu une vraie conscience écologique. Il ne faut pas oublier. Bon, il y a eu la guerre du Vietnam, où d'ailleurs Monsanto s'est particulièrement distingué avec Dow Chemical au niveau des défoliants et du napalm. Ils ont expérimenté certains herbicides de façon extrêmement concluante.
Vous en parlez aussi dans le roman.
Oui. J'en parle dans le roman.
Et Bayer, j'en parle aussi.
J'aime beaucoup ces gens-là. Beaucoup d'amitié pour eux. Et donc, il y a avec la contre-culture la prise de conscience que le système de production dans lequel on est nous emmène dans un mur. Et à ce moment-là, on n'écoute pas les gens. Les hippies, évidemment, il y a un côté folklorique, retour à la nature, les fleurs dans les cheveux, tout ça. Puis après, la drogue, évidemment, a beaucoup détruit le mouvement et l'a beaucoup décrédibilisé. Mais la sonnette d'alarme a été tirée.
C'est ça.
Voilà.
Ouais.
Et après, plus rien. Après, on est rentré dans la consommation, la production à fond, dans les années 80, jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, on se dit, ça y est, le mur est là.
Et en 62, on avait laissé un adolescent rebelle à Grenoble. En 80, on est avec un expert comptable à Paris qui enseigne à Subdeco Lyon. Et tout d'un coup, on est un peu moins dans. On s'est assagi.
C'est moins glamour. Hein.
Sur le papier, on s'est posé, c'est ça? On a laissé coller.
Oui, ça, c'est le problème de vouloir faire comme sa mère. En fait, je raconte souvent, mais ma mère me disait toujours quand j'étais môme, de toute façon, t'arriverais jamais à rien, t'es un artiste. Ah. Alors du coup, j'ai dit attends, on va voir. Du coup, j'ai fait des études. Évidemment, j'ai fait les mêmes études qu'elle, quasiment quoi. Et après, ce qui est vraiment très bête, sincèrement, j'aurais parce que vraiment, je regrette toutes les années que j'ai pas passé à écrire, à faire du cinéma, ou de la musique, ce qu'on veut. Mais
c'est pas forcément du temps perdu.
Ça me sert, ça me sert évidemment parce que ça me donne une connaissance.
Ça vous alimente.
Parfois plus précise de la société que peuvent en avoir, d'autres. Mais en même temps, c'est quand même du temps perdu. Et c'est vrai que vouloir faire comme ses parents. C'était un défi, et puis une fois que j'ai réussi ce défi, c'est-à-dire que j'ai réussi entre guillemets par rapport aux critères de la société, là je suis reparti.
Ce qu'il faut, c'est que vous avez
délires.
Ça a duré quoi, au moins 20 ans?
Oui, pas loin.
Que 80, c'est votre expert comptable, et 99, vous devenez actionnaire et directeur général de la compagnie aérienne Proteus.
Oui, et donc, je la revends en 2001, et là c'est fini.
Voilà, 20 ans.
20 ans.
Pour faire plaisir.
Le mec, il a mis du temps à comprendre. Hein.
Vous étiez prof à l'école de commerce de Lyon?
Oui.
Vous étiez prof là-bas?
J'ai créé le master d'ingénierie financière à Écully.
En région lyonnaise. Et ça veut donc dire que vous avez formé des personnes que maintenant vous montrez du doigt et qui font partie de ces dirigeants de sociétés informatiques.
Oui, qui achètent mes livres d'ailleurs.
D'accord. Jean-Marie Ami, vous êtes venu à ce micro. Vous êtes à ce micro, merci. Vous êtes neurobiologiste, directeur de l'Institut de la longévité Charles Foix, à l'Université Pierre et Marie Curie. Vous êtes auteur avec Daniel Triche de Ça va pas la tête, cerveau, immortalité, intelligence artificielle, l'imposture du transhumanisme en 2018 aux éditions Belin. On était en Allemagne. Donc tout est dans le titre. Vous dites que c'est une imposture.
Oui, je peux repartir, tout est dans le titre.
Non, mais
avant de repartir, ça aurait été bien que vous citiez, je suis sûr que vous l'adorez, Blondie.
Pour la musique?
Oui, parce qu'il y a une émission qui a à voir avec le sujet, qui s'appelle une chanson qui s'appelle In the Flesh, dans la chair. Et donc, c'est vraiment la distinction entre...
Le groupe de Deborah Harry.
Mais pour... Elle s'appelle Deborah Harry, et le groupe Blondie. Oui. Oui, elle est toujours Hunter.
C'est pour ça que je dis le groupe de Deborah. Ok, je vais y aller moi aussi. Vous partez maintenant, on prend le même ascenseur, on consommera, moins.
L'important est de savoir vers où.
C'est le Graal de tous les scientifiques, l'immortalité, et ça c'est depuis des millénaires, de trouver la potion magique.
Non, il y a un rêve qui traverse l'humanité, c'est le double rêve de l'éternelle jeunesse et de l'immortalité. Mais ça traverse la société, ça traverse pas forcément les scientifiques. Les scientifiques, il y a d'abord eu des réponses de type des mythes, comme le golem, les automates de Vaucanson, la comtesse Bathory qui se baignait dans le sang de jeunes vierges, etc. Et puis, la science...
Vous êtes sûr que ça marche pas? Guillermo t'arrête, donc tu vois, ça ne fonctionne pas cette histoire.
Le lait d'Anès.
La fontaine de Jouvence, non?
Ça ne marche pas, apparemment.
Okay.
Donc c'est pas forcément un rêve, comme tous les êtres humains, les scientifiques rêvent, mais ils rêvent peut-être à d'autres choses. Mais ils sont obligés d'utiliser dans leur travail une méthode, qui est la méthode scientifique, c'est le nom d'une autre excellente émission sur France Culture d'ailleurs, une méthode. Et donc les scientifiques ne s'interdisent aucune question. Le problème, c'est qu'avec leur méthode, ils doivent borner ces questions, oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine possibilité d'apporter des réponses au moins partielles et que ces réponses soient dans un délai raisonnable pour passer à une autre question.
Si donc, on pose un scientifique question, est à la fois un rêveur et quelqu'un d'extrêmement concret.
Ben, c'est un rêveur qui confronte ses rêves à l'expérimentation, ouais, et à la réalité. Et quand on fait cette confrontation, effectivement, les idées des transhumanistes ne résistent pas à l'analyse scientifique.
Le point de départ, l'un des points de départ du roman de Marc Duguin, donc ce que Google essaye d'obtenir, y croyez-vous ?
Vous voulez dire l'immortalité ?
Ouais.
Non, pas du tout. Le problème du transhumanisme, c'est qu'il est à cheval entre des problématiques scientifiques et des problématiques qui sont des extrapolations qui sont en dehors de la science. Et que les transhumanistes disent que la convergence de 4 technologies actuellement, d'une explosion des connaissances en nanotechnologie, biologie, et en particulier biologie du vieillissement, intelligence artificielle, la célèbre intelligence artificielle, et la cognition et les neurosciences, cette explosion de connaissances va créer un moment de singularité où, en gros, tout va être possible, on va guérir toutes les maladies, le vieillissement n'a plus de limites.
Ce qui est déjà le cas, on guérit de plus en plus de maladies, on repousse de plus en plus la limite d'âge.
Eh bien non, détromperez-vous. On guérit de plus en plus de maladies, mais il y a des facteurs de risque de plus en plus importants, la pollution, etc.
On en crée d'autres,
Et il y a des maladies qui résistent.
On n'aurait jamais imaginé pouvoir faire des opérations chirurgicales en remplaçant un organe ou un os avec une imprimante 3D qui va permettre sortir quelque chose qui va sauver une vie.
Vous doutez bien que je n'ai rien contre le progrès. Mais par exemple, oui, les maladies neurodégénératives, on parle toujours de l'explosion des connaissances du cerveau. La traduction, pour employer un mot scientifique, translationnel, c'est-à-dire en termes de traitement, c'est zéro actuellement. Zéro. Le dernier essai à 3 milliards d'euros de la société Biogen a été arrêté après un échec retentissant. Un blocage.
Est-ce que l'intelligence artificielle, qui aura évidemment ses limites, ne va pas pousser finalement, nous pousser, ou les autres générations, à faire moins tourner son cerveau en se disant finalement il y aura toujours une machine, il y aura toujours quelque chose pour répondre à la question que je me pose?
Alors il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Celle qui existe actuellement et qui se développe, elle est utilisée constamment par les scientifiques. Au contraire, c'est un outil extrêmement précieux, pas seulement pour les scientifiques, pour les problématiques de santé, etc., pour ce qui nous concerne. Mais je ne pense pas du tout que l'intelligence artificielle actuelle, même dans sa forme la plus développée, ce qu'on appelle l'apprentissage profond, soit suffisante pour ce qui est évoqué par Marc Duguin, c'est-à-dire la possibilité de dématérialiser un cerveau, ouais, humain. C'est un problème de la désincarnation, même si le mot a été souvent employé dans un sens religieux. Donc de dématérialiser un cerveau humain et ensuite de l'injecter dans un avatar. Ça, c'est absolument hors de portée actuellement, et on croit que c'est à cause des limites de l'intelligence artificielle. Pas du tout, c'est à cause des limites de la biologie. Pourquoi ? Vous allez me poser la question.
Pourquoi ?
Merci.
Je vous en prie.
Merci, ne répondez pas à ma place.
Non, je vous laisse.
Ce qui est intéressant quand on veut imaginons qu'on puisse dématérialiser un cerveau. Ça pose des tas de problèmes, il faut s'occuper des organes d'essence, etc. Bon, mais imaginons que tout ça est réglé. Ce qui est intéressant, c'est de dématérialiser, non pas un cerveau générique, mais le cerveau de Marc Duguin, oui, le cerveau de Leïla, le cerveau de Nagui.
Voilà, ça va être vite fait avec Leïla. Il va pas falloir beaucoup d'outils. Hein. Une petite cuillère à café. Hop,
et là, il y a un problème, c'est-à-dire on se confronte à une question qui a déjà été traitée par les philosophes, mais qui est prise maintenant par les scientifiques, qui est le soi. Quelles sont, ouais, les bases biologiques du self, du soi? Et actuellement, la biologie ne peut pas répondre. Tant que la biologie n'aura pas répondu à cette question, et c'est extrêmement difficile d'y arriver, parce que le soi, ça implique de pouvoir déterminer quelque chose sur un échantillon qui est égal à 1. Mmh. Un individu. D'habitude, on fait des échantillons, ouais, de 10, 20, on fait des moyennes, des écarts-types et une variabilité. Et sur ce point de la variabilité individuelle, les scientifiques sont actuellement muets. Donc, c'est un exemple parmi d'autres de ce qui fait que cette dématérialisation est absolument impossible pour l'instant.
Mais on peut créer...
Mais le transhumanisme, ce qui est intéressant, je vais vous faire une analogie qui va vous paraître brutale entre le transhumanisme et le nazisme. Le nazisme est un...
On arrive au point Godwin.
Très intéressante.
Le nazisme, c'est quelque chose qui a cherché tout le temps les preuves scientifiques de son idéologie. Et ça a été un échec retentissant. Mmh. Il n'empêche que le nazisme, en tant qu'idéologie, sans apporter la démonstration scientifique, a fait les dégâts qu'on connaît. Alors les transhumanistes, c'est un peu plus difficile parce que dans leur discours, il faut qu'il y ait un progrès scientifique pour arriver à quelque chose. Mais ils ont aussi une dimension idéologique. Il y a un transhumaniste qui a été candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Il a été 5e. Trump l'a battu. C'est pas mal. Ça prouve que les transhumanistes ne sont pas encore au point.
Et il y a une forme d'eugénisme.
L'eugénisme, oui, c'est ça le point commun.
Qui est commun
avec les nazis.
Il y a aussi ça. Mais
c'est ce que vous dites dans votre roman, absolument. Ça va pas la tête. Cerveau, immortalité, intelligence artificielle, l'imposture du transhumanisme en 2018. C'est signé aux éditions Belin. Merci beaucoup.
Justement, Belin, ce qu'on vient de dire,
d'être venu. Tanguy Pastureau. Bonjour Tanguy.
Bonjour, quand on parlait de nazis.
Me dites pas que vous avez une trottinette électrique.
Non Nagui, parce que j'ai un sens aigu du ridicule. C'est aussi pour ça que je ne tente pas de tongue et je n'utilise pas l'expression au jour d'aujourd'hui. Les trottinettes électriques, c'est de la daube. Il faudrait les brûler, ces saloperies, et foutre leurs utilisateurs en tôle. Mais j'argumenterai un peu plus à midi.
Oui, avec moins de violence, s'il vous plaît. Avec
Léla
Gadou.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour toi.
Albert Algou.
Bonjour.
Pierre Moguiz. Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Et notre invité, Monsieur Marc Dugas.
Bravo. Bravo.
Marc Dugas qui signe Transparence, ce roman, vous avez choisi ce titre plutôt que immortalité, plutôt que d'aller justement vers une notion religieuse. Vous avez douté d'ailleurs du titre. Comment trouver un mot pour résumer tout un roman?
Alors, en fait, j'avais choisi un titre qui s'appelait « Le jour où mon chien ne m'a pas reconnu
». Ce qui se passe dans le roman.
C'est
génial.
Et...
Mais c'est génial.
Et oui, et on m'a dit « Oui, mais tu sais, t'imagines les gens rentrer dans une librairie et demander « J'aimerais avoir le dernier bouquin de Dugin, le jour où mon chien ne m'a pas reconnu et a perdu sa laisse, etc. »
Non,
ne
vous laissez pas manger par le marketing.
On rentre dans des problématiques commerciales, j'ai dit « Bon, écoutez, faites ce que vous voulez. » Et c'est eux qui m'ont proposé Transparence.
Ce qui est pas mal aussi.
C'est pas mal, Transparence aussi. C'est plus simple.
J'ai pas dit que c'est pas bien, je dis que la scène...
Mais moi, je préférais « Le jour où mon chien ne m'a pas reconnu ».
En sous-titre, bah, Transparence ou Le jour où le chien est reconnu.
Là, quand en poche, on va faire ça, quand il va sortir en poche.
Non, si ça devient une fiction, ça peut être un film ou une fiction télé. Et là, ça peut s'appeler Le jour où le chien.
Non, mais là, c'est un mauvais titre pour une fiction télé.
Il y a déjà la série Rex avec le berger allemand, on en aura grand fond.
Ça, c'est vraiment bien.
Transparence, ce nouveau roman de Marc Dugas, on est à peine dans quelques années, en 2068, au-delà de cette date anniversaire. Ce qui est crédible, c'est que tout ce qui se passe dans le roman, on en vit déjà les racines aujourd'hui, que ce soit dans la catastrophe écologique que l'on est en train de vivre, que ce soit dans les progrès scientifiques qu'on est en train de vivre. Il faut voir le bon côté aussi du progrès. Le danger de ce progrès, c'est de vouloir s'immiscer en divinité suprême, justement.
Bah, c'est un peu ce qu'il y a dans la tête de tous ces gens qui sont autour du transhumanisme. Ça fait un peu secte, en fait. C'est des ultra libéraux. D'ailleurs, pour certains qui sont originaires de la contre-culture, mais ils en ont pris
que vous vantiez il y a quelques minutes.
Ils ont pris le côté libertarien, et là c'est beaucoup moins bon parce que ça devient une idéologie. C'est genre il faut pas de contraintes, donc il faut pas payer d'impôts, et moi je les trouve un peu psychotiques au sens de la définition de la psychose, c'est-à-dire la perte du réel. Ils sont dans quelque chose, ça y est, ils nous ont quittés. Nous on sera peut-être immortels, mais en tout cas eux ils nous ont quitté. Et c'est assez effrayant parce qu'on regarde les différents courants libertariens et transhumanistes, on voit des gens qui sont quand même qui n'ont pas une grande confiance dans l'homme, parce qu'au fond leur idée, la vraie idéologie sous-jacente, c'est de faire un homme idéal, qui soit un consommateur, un producteur idéal. Et qui emmerde plus le monde.
Dans le côté positif, quand même, notons que les armes disparaissent totalement de cette planète, puisqu'il n'y a aucune raison de tuer qui que ce soit, puisqu'il peut devenir immortel.
Oui, parce qu'on peut dupliquer.
Bah voilà.
On peut dupliquer quelqu'un qui est désincarné, vous pouvez le dupliquer autant de fois que vous voulez. Donc ça, il y a un côté sympa. Et du coup, oui, ce qui est sympa aussi, c'est que les gens n'ont plus peur de la mort. Donc forcément, quand ils se révoltent, ils vont très loin. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici, parce qu'il y avait toujours cette limite de se faire tuer. Alors ça, c'est parmi les avantages. Non, mais moi, sur la révolution numérique, je suis pas un détracteur à 100%. S'il n'y avait pas d'avantages, il y aurait pas d'inconvénients. Mais ça, c'est comme le pétrole. Le pétrole, c'était génial au début. Et puis on voit dans quoi ça nous a mis. Ça nous a mis dans une espèce de bulle malodorante et infecte.
Parce qu'on ne sait pas s'arrêter dans la limite de la consommation, du raisonnable ou de l'exploitation de notre propre planète.
Et c'est ça la folie en fait. Ouais. C'est ça la folie et cette folie est entretenue. Aujourd'hui, pour être sérieux deux secondes, moi je pense qu'il y a, là on est dans la phase de responsabilité. C'est comme l'histoire du sang contaminé. On a été chercher des responsabilités à un moment donné. Je pense que là, sur l'écologie, on est dans une phase où ceux qui n'auront rien fait, qui sont aux commandes, devront
rendre
des comptes et en répondre devant la justice, j'en sais rien, mais en tout cas devant les gens.
En tout cas devant leurs petits-enfants en disant « toi, tu savais pourquoi tu n'as rien fait ».
Exactement. Exactement. Et toutes ces politiques qui sont toujours, vous savez, dans ce truc de vouloir rentrer dans la postérité, d'être dans l'histoire... Là, ils vont être dans l'histoire, mais pour de mauvaises raisons. Donc, il faut qu'ils réfléchissent à ça.
Transparence, très bon roman, extrêmement bien écrit par Marc Duguin. C'est agréable à lire. C'est trop court, hein, je vous le dis. Ouais. Quand c'est fini, on se dit non. Faudrait que ça.
On pourrait faire le tome 2 du jour où le chien m'a pas reconnu.
On voudrait. Ben non, vu la fin, tu peux pas faire de tome 2. Mais... Parce qu'il y a une fin aussi incroyable où.
Si, on peut faire une suite. On peut faire une suite.
Bon, je te laisse avec Marc. Ouais. Moi, je vais rejoindre Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau, vous êtes contre les trottinettes électriques.
Oui, je suis pour qu'on interdise les trottinettes électriques, puis les gens qui sont dessus et à terme l'humanité entière. La trottinette électrique, c'est une aberration. Si Dieu avait su qu'on l'inventerait, le jour où il nous a créé, à la place, il serait mis à la poterie. Parce qu'on a ajouté électrique, on fait comme si la trottinette était un truc d'adulte. Mais non, c'est un jouet pour gosses sur lequel circulent de grands couillons qui en sont restés au stade anal, qui diffère du stade de France par le fait que jamais Metallica ne vient y jouer. Ils sont au moins un de trop. Si demain on lance la tétine électrique, ce sera pareil, tonton René, toute la journée, va téter. On le retrouvera blotti dans un coin, tel Raphaël Glucksmann le soir des résultats des européennes, alors que Léa Salamé lui dira « Ciao, loser, je te quitte pour François Asselineau, qui lui a fait 0,5% des voix, 0,4% de plus que toi. » Et puis imaginez, vous êtes à Paris, à la cool dans votre 4x4, parce que vous avez eu une prime suite au succès d'audience de la bande originale. Oui, bon, vous êtes Nagui. Soudain, un type à trottinette vient se jeter sous la bagnole, alors que vous étiez à peine à 92 km/h rue de Rivoli. Eh ben, il vous foire tout le bas de caisse. Et il y en a partout. Une tête ici, une jambe là. Enfin, si déjà tout môme, vous n'étiez pas branché puzzle, mais ça vous pourrit l'après-midi. Et ensuite, vous devez vivre avec une mort sur la conscience. Et ça, c'est un truc qui ne part pas en se distrayant avec un simple épisode de Game of Thrones. Non, il vous faut au moins toute une saison. Bref, entre les vélos, les trottinettes, les voitures, c'est le dawa. Les rats de Paris, qui constituent 90% des aides qui y vivent, sont donc allés voir Anne Hidalgo. Elle a sorti des cubes d'Emmental, ils ont discuté. Les rats ont dit « Ouais, rat le bol, c'est une blague de rat. Hein, on peut même plus traverser pour attaquer les Chinois à la sortie de Vuitton et leur bouffer leur sandwich. » Anne Hidalgo, maire de Paris, est donc entrée en guerre contre les trottinettes. Chacun son bilan. De Gaulle aura fait fuir les nazis, Hidalgo ce sera les propriétaires de trottinettes. Hein, je pense que si elle avait existé en 42 et qu'Hitler avait déboulé en vélo à petites roues, elle le foutait dehors. Mais elle n'est pas née à la bonne époque. Et puis le souci, ce sont les trottinettes partagées. On dit « C'est écologique. » La durée de vie d'une trottinette partagée, c'est 28 jours, moins qu'un discours d'Emmanuel Macron où il viendrait expliquer tout ce qu'il a fait de bien selon lui en 2 ans de mandat. 28 jours ensuite, elle part à la casse. Donc ce n'est pas écologique, parce que dès que c'est partagé, les gens s'en foutent. Regardez les poux, au lieu de lancer des petites miettes sur la tête du gosse, on les élimine, alors que c'est un copain qui les a refilés à votre fils. Quel exemple on donne aux petits? Pas étonnant que 20 ans plus tard, ils ne deviennent pas communistes. Alors résultat des trottinettes, bah, y en a partout, sur les trottoirs des trottinettes, sur la rue des trottinettes. J'ai une amie qui a retrouvé son mari Rioli avec une trottinette. Hein. C'est pas ce que tu penses, bébé. Il s'est mis à hurler. C'est pour pas que demain matin, quelqu'un d'autre la prenne. Ah, oui. Il a pleuré, a dit, c'est vrai, j'avoue, c'est moi qui l'ai branché. Oh. Non, mais j'aimerais pas être un non-voyant. Hein, parce qu'entre les trottinettes posées n'importe où, les trottinettes couchées, les trottinettes à l'envers, si le non-voyant a un chien, derrière, l'animal part direct sur le jumping de Maison Lafitte en tant que bourrin, Nagui.
Clairement. Votre haine des trottinettes est un peu excessive quand même.
Alors, c'est possible, Nagui, mais je vais vous avouer un truc. J'ai eu une trottinette électrique. Hein. Ah. Dès le début, j'étais le premier là-dessus. Hein, les gens me regardaient slalomer sur le trottoir entre les petites vieilles. Ah, il fallait les entendre crier, les seniors. J'ai mal, il m'est rentré dedans, je vais crever. Que de bons moments. Mais on m'a volé ma trottinette. Ah. Et depuis, je voue une haine à ceux qui ont toujours la leur. La délinquance a fait de moi un chien, un enragé. Ça me donne envie de voter Laurent Wauquiez. Et si demain on pique mes baskets, je me mettrai sans doute à hurler aux gens qui marchent. Ça va, on a vu que t'avais des pieds bâtards. Enfin, on a tous nos soucis psychologiques. C'est comme les anciens fumeurs. Les mecs, pendant 30 ans, tournent à la camelle avec la laine du dromadaire qui a vidé l'eau croupie de sa bosse par la gueule. Du jour où ils arrêtent, ils ne supportent plus. Ils détectent un fumeur à 16 mètres de distance. Un concert de reggae à 4 km. Et ben, moi qui suis un ancien de la trottinette, aujourd'hui, ça me débecte. Quand j'en vois une, je vomis. J'ai déjà perdu 9 kilos. Et je suis mal barré parce que rien qu'à Paris, il y a déjà 10 opérateurs. Lime, Bird, Jump, Wind. Le seul nom français dans le secteur, c'est Urgence de la Pitié-Salpêtrière quand vous êtes fait renverser par un bus. 15 000 trottinettes, il y a dans les rues. Partout sur les trottoirs, plus de place pour les poussettes. Les parents doivent apprendre à leur bébé à marcher seul dès l'âge d'un mois et demi. Ce sont des guerriers. Avant le CP, ils ont le corps de Stallone dans Rambo 3. Dans 20 ans, un pote leur dira, t'as fait le Sahel, mec, opération Barkhane? Ils répondront, pire, j'ai fait Paris. Les trottinettes partout, un enfer. J'ai survécu en bouffant des pigeons morts. Mais dans ma tête, je suis brisé, j'écoute Jean-Louis Murat. Anne Hidalgo l'a dit, si les loueurs de trottinettes ne se régulent pas, elle est prête à interdire ces engins de malheur. Parce que si vous êtes un chihuahua, personne ici n'est un chihuahua, hein? Non, même dans le public. Non, non, que des humains. Mais quelle émission spéciste. Bon, bah, si vous êtes un chihuahua à Paris, Marseille, Lyon, votre espérance de vie avant de passer sous une trottinette électrique est de 3 secondes. C'est peu. 1, 2, 3, paf, un chihuahua. 1, 2, 3, paf, un autre. Alors non aux trottinettes, oui aux chihuahuas.
Merci.
Bravo. Sur France Inter.
Et on te retrouve, Tanguy, au Festival d'Avignon au Théâtre de Paris du 10 au 19 juillet.
Marc Duguin, notre invité avec Transparence chez Gallimard. Vous évoquiez votre douce et tendre épouse, professeure de français. Est-ce qu'elle est votre première lectrice?
Alors, d'abord, elle est prof de français. Et puis maintenant, elle a évolué et elle est éditrice dans une belle maison d'édition.
Chez Gallimard?
Non, pas du tout. Chez Robert Laffont. Et en fait, non. Et un truc,
par souci de concurrence, vous lui faites pas lire.
Non, non, c'est pas une histoire de concurrence. Je sais pas comment. Je sais qu'elle me le reproche, mais elle est dans les premières à lire mes livres, mais je préfère qu'au début, ça soit un truc exclusif avec mon éditeur, en fait. Je lui envoie mon manuscrit, je travaille dessus. Et puis après, en fait, j'ai envie de lui donner quelque chose qui est totalement terminé. Voilà, lui dire, voilà, ça, c'est le livre.
Donc, elle ne vous sert pas comme une espèce de panel pour savoir comment elle ressentirait telle ou telle situation et qu'est-ce que tu penses si
non.
Je fais aimer telle personne et telle autre personne. Si
non,
je
non,
fais
mais là, c'était marrant parce
l'autre.
Que quand le livre est sorti... J'étais persuadé qu'il marcherait pas. Je me suis dit, de toute façon, là, c'est un peu... Je pars un peu dans des délires. Je suis pas sûr que mes lecteurs vont me suivre. Bon, par chance, c'est le contraire qui s'est passé. Mais elle m'a dit... Quand elle a lu le livre, elle m'a dit, c'est vrai que c'est gonflé. Ça va être marrant de voir comment ça se passe.
Mais ça veut dire que pendant tout le temps de l'écriture, comment vous faites? Vous lui racontez pas ce que vous êtes en train de faire
et
le soir.
Il met un casque de chantier déjà. Donc
oui, non, mais...
quand elle l'appelle.
Non, mais vivre un écrivain non. Le soir, ça veut dire que potentiellement, c'est parler de ce qu'on a fait dans la journée, comme tout le monde, raconter un peu sa journée. Donc c'est quoi? C'est raconter ce que vous avez écrit, la difficulté que vous avez. Là, vous pouvez pas le faire.
Non, mais je parle. Vous savez, je suis dans la fiction toute la journée. J'écris des scénarios. J'ai fini d'écrire mon prochain film qui est Eugénie Grandet. Bon, on me dirait
que vous citez à la fin du livre.
Je suis parti. Je cite Balzac. Donc j'ai tourné Eugénie Grandet avec Olivier Gourmet à la fin de l'année.
Tu vomis. En fait,
du coup,
il faut nous expliquer.
Ça a été le choc.
Qu'est-ce
que c'est? Parce que c'est un grand.
Guillermo s'est tourné vraiment brutalement. Il fait du karaté. Moi, je me suis dit attention, il faut que je fasse un truc. Et donc Guillermo Anna a renversé son verre d'eau.
Il en a renversé son verre d'eau. C'est renversant comme nouvelle.
C'est pas un verre d'eau, c'est un carton d'eau.
Il se dit Gérard Depardieu, il surine dessus. D'ailleurs, c'est fait, il s'en va.
Chouette.
Oh la vache. Donc oui, Olivier Gourmet.
Oui, non, donc en fait, je j'écris toute la journée, que ce soit bon le matin, c'est les romans. Après c'est les séries, puisque j'en fais une avec Canal Plus qui me prend un peu de temps aussi. Et donc non, je parle pas trop de
non. Et quand vous dites,
je parle quand je lui donne quand c'est fini.
Est-ce que vous allez au travail comme nous on vient au boulot? Est-ce que il y a un coin qui vous est réservé? Peut-être soit un bureau, soit carrément une partie de la maison.
Ou à l'extérieur.
C'est votre zone, ouais, c'est ça.
Alors c'est un vrai problème. Là, vous touchez un vrai problème, ouais. Qui est qu'effectivement, je travaille à la maison et ma femme aussi, comme elle est freelance. Et donc, on est chacun à deux bouts de la maison. Mais moi, j'ai un problème, c'est que quand je m'arrête d'écrire, il faut que je joue de la batterie.
C'est l'enfer. En fait, le casque de chantier, c'est pour
et
elle.
Et alors, en fait, ouais. on a chacun une vitre dans notre pièce et on communique par-dessus le salon.
C'est génial.
Et elle me fait baisse moins fort. Donc voilà, c'est notre communication pendant la journée. Mais le soir, on se retrouve avec beaucoup de
secrets.
Mais c'est vrai qu'il y a des écrivains qui louent carrément qui louent carrément un bureau.
Oui, enfin.
Moi, j'aime bien être à la maison. J'aime bien voir mon fils rentrer de l'école.
On est d'accord. Quand on se met à écrire des romans et quand on a un métier, j'ai l'impression que vous en avez plusieurs entre vos romans, les scénarii télé, l'autre pour le cinéma, ça reste et ce sont différents métiers. On est d'accord. Écrire une Bible pour la télé, ça n'a rien à voir avec écrire un roman ou écrire un film.
Ah oui, non, c'est totalement différent. C'est des exercices.
On appelle ça de l'écriture, mais ce sont quand même des métiers différents.
Oui, après, il y a la création, l'imagination. L'imagination qui est.
Mais la structure n'est pas la même.
Mais la structure n'est pas la même. Et c'est pour ça que je peux faire. Parce que l'écriture littéraire, moi, je me lève assez tôt le matin. Et je pense que quand on a écrit, en gros, 3-4 heures dans une journée sur un livre, après, on patine.
En tout cas, vous n'avez pas patiné sur Transparence, parce que au-delà de voir votre, et puis j'imagine que vous ressourcez en allant sur d'autres projets pour revenir plus frais sur l'écriture d'un roman. Ça prend beaucoup de temps à écrire un roman comme Transparence, qui prend peu de temps à lire.
Il a pris pas mal de temps parce que
pour la documentation.
C'est la première fois que ça m'arrive. Non, la documentation, non, parce que comme j'avais écrit L'homme nu, qui est un essai avec Christophe Labbé, qui m'avait amené toutes les informations dont j'avais besoin. Donc c'est pas la question. C'est que j'ai écrit une première. Je l'ai écrit une première fois ce livre. Et entre temps, j'ai fait L'échange des princesses, cinéma, tout ça, et je l'ai repris, je l'ai relu, et j'ai trouvé ça nul, mais nul. Et je me suis dit, bon, je vais l'améliorer. Et puis, au bout d'un moment, je dis, je vais pas améliorer. J'ai poubelle, je vais le réécrire complètement. Et donc, je l'ai réécrit complètement. Du coup, ça a pris du temps parce que ça a été en deux fois, en deux
cas,
essais.
Voilà. C'est une réussite. Je sais pas ce qui est tombé à la poubelle, mais en tout cas, ce qui est passé à côté est une réussite. Transparence, ou encore une fois, le parcours incroyable de cette, elle est quoi à la base? Elle est informaticienne, elle est,
Oui, elle fait partie de ces gens qui travaillent sur le numérique, ces spécialistes, ces geeks. Qui sont là, qui vivent dans ce monde
complètement. Ouais, mais on se rend pas trop compte si elle a le nez dans des ordinateurs et dans des arborescences, ou si elle est plutôt dans le relationnel et dans le.
Elle a été geek au départ, et puis après elle a pris du grade. Puis là c'est devenu le coup elle qu'elle fait sur. Enfin, le coup de bourse qu'elle fait, il faut quand même derrière avoir un peu de structure mentale.
On peut le dire. Elle finit par racheter Google, qui est la boîte la plus grosse du monde aujourd'hui, j'imagine, non?
Oui. Après avoir en fait joué en bourse à la baisse sur toutes les autres valeurs qui évidemment vont s'effondrer dès le moment où il y a une immortalité. Il y a plein de choses et qu'on va se désincarner. Il y a plein de choses qui évidemment vont s'effondrer. Il y a plein de secteurs.
Et puis vous verrez, je suis sûr que Leïla, comme moi, on lit ce livre en se demandant est-ce qu'on serait éligible ou pas.
Ou est-ce que c'est souhaitable? Finalement, les plus normaux dans ce bouquin, me semble-t-il, c'est ceux qui ne donnent pas leurs données et qui n'ont pas forcément envie d'éternité.
Oui, c'est comme la femme du président qui est alcoolique et qui dit
ou de son amant aussi. Son mari.
Son mari Elfa. Aussi, Elfa, ouais, Elfa, qui avait pas du tout envie de tomber là-dedans. Et... Non, mais c'est une vraie question. C'est vrai que la nature là nous a fait pour mourir et se reproduire. Mais elle aurait pu nous faire éternel. Bon, c'est pas le cas. Alors pourquoi vouloir être éternel finalement? Moi personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Surtout avec le monde qui se prépare. Ben ouais. J'en suis pas regretté d'avoir eu des enfants, mais je me pose quand même de sérieuses questions pour eux.
Lui, il est éternel. Il en a vu passer. Il en a tué.
Débuté, hein.
Il en a tué des animateurs. Voici Daniel Morin.
Ça y est, c'est parti les amis, le Festival de Cannes a officiellement démarré hier soir. Le Festival de Cannes, c'est la démesure du cinéma et de la fête. 12 jours de compétition, 21 films, 450 journalistes, 40 000 professionnels du cinoche, 35 000 bouteilles de champagne, 5 tonnes de homard, 1 tonne de coke, 3 000 litres de poppers, 9 conteneurs de Viagra. Ça promet. Oui, Cannes. C'est la démesure. Et moi, ce qui me fascine avec Cannes, c'est d'entendre les journalistes ciné qui s'apprêtent à y aller. Quand tu leur dis « Waouh, tu vas à Cannes, la chance, tu vas t'éclater, les fêtes ont l'air top apparemment », ils répondent tous « Ouais, mais non, mais pas du tout. Moi, Cannes, c'est boulot, boulot, boulot. Tous les soirs, je suis couché à 21h grand max et je suis à la première projo à 8h30 et j'enquille. La fête, c'est pas pour moi, je suis là-bas pour bosser. C'est pas des vacances. Tu pars. Mais quelle bande de menteurs. Je les connais, c'est tous des déglingos, des fêtards de ouf. Tenez, ici, sur Radio France, nos spécialistes cinéma, Christine Masson et Laurent Delmas. Eh ben, eux aussi, ils ont été de leur petit, moi, Cannes, c'est boulot, boulot, hein, pas le temps d'aller aux fêtes, désolé, on est là pour bosser. C'est faux, archi faux! Ils s'en tapent de la compétition. Cannes, c'est 12 jours de teuf pour eux. Ils sont connus pour ça dans les régions. On les appelle Cricri et Lolo, le tandem de la mort. Au festival, il y a même un cocktail qui porte le nom de Laurent Delmas, tellement il picole. Ça s'appelle, c'est vrai, ça s'appelle le Lolo. Moitié Ricard, moitié au Javel. Dès hier soir, ils sont rentrés dans la danse. J'ai un espion sur place, il m'a tout raconté ce matin. À minuit, le Delmas, il était en string dans la piscine du Martinez en train de jouer à Chebit avec Augustin Trapenard. Il est comme ça, Laurent, les films, il s'en fout. Et à 5h ce matin, Cricri était déguisé en Reine des Neiges dans la suite Pedro Almodovar en train de fouetter les frères d'Ardenne. Le tout filmé par Stallone habillé en bonne sœur.
Yeah.
Il y a du niveau. Et au niveau défonce, justement, sur une échelle de 1 à 10, Cricri et Lolo, ils sont à 12. À 12 pendant 12 jours. Ils n'arrivent plus à articuler. Ils ont le syndrome Guillermo Guise. À la fin, ils sont rincés, Lolo et Cricri. Entre l'arrivée sur la croisette et le départ, ils peuvent perdre jusqu'à 60% de leur poids. C'est pour vous dire. Quand ils rentrent, ils partent immédiatement en congé et rentrent début septembre. Et le week-end, je ne vous raconte pas le massacre, le carnage. Pendant le festival, Nagui descend et organise les fêtes les plus dingues du festival.
Il faut que j'y aille.
Ah, Nagui, pour l'occasion, c'est pas une piscine qui privatise. C'est la Méditerranée. La Méditerranée, le gars, il a peur de rien. Des teufs qui durent 72 heures, tous les excès sont permis. L'année dernière, Pierre Lescure était tellement défoncé, il a essayé de faire l'amour à un poulpe. Ah bon. Alors, qu'on arrête avec les phrases du style « Cannes, on y va pour bosser ». C'est faux, c'est pour faire n'importe quoi. Et croyez-moi, c'est très bien comme ça.
À merci demain. Daniel Morin.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Merci Marc Duguin et bravo surtout pour Transparence. Juste une question, pensez-vous que ça puisse devenir un film?
Ben, il y a des projets, oui. Il y a des projets. J'ai déjà été contacté, films, séries, tout ça. Ben, on va voir.
Vous en avez envie?
Oui, ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis pas, vous savez, sur les droits des livres. Je cède pas mes droits comme ça en disant, ouais, très bien, allez-y, je veux voir le projet et à quoi ça ressemble.
D'accord.
Donc on va voir tout ça.
Vous revenez vite, hein, j'espère, avec un autre roman, une autre belle plume. Marc Duguin, Transparence, c'est chez Gallimard. Ça fait déjà partie, mais accordez-nous le fait qu'on vous ait invité avant de savoir que vous étiez dans les trois meilleures ventes de livres en ce moment. Mais félicitations en tout cas pour ce succès littéraire. Et à vous de l'appuyer en le lisant. Demain, Daniel Russo et Didier Benureau seront nos invités. Et ce sont aussi des carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Salut Nagui, bonjour les amis.
Salut.
Je suis preneur d'un duo de batterie avec Marc Duguin.
Ah, trio alors, parce que je m'y mets aussi.
Eh ben oui, je le sais. Alors, je t'avais vu jouer sur la batterie.
On va organiser ça.
Ah ouais, volontiers. Et j'avais vu jouer Nagui sur la batterie d'ailleurs de Phil Collins, c'est pas rien.
Exactement. J'avais fait la descente de Tom de Indy Hartonite devant lui.
Exact.
Un kiff.
Ouais, j'ai pas le niveau en fait. Je pense qu'on va.
Marc, on va ranger ça.
Peut-être à la trompette alors.
À tout
salut les amis.